With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
C'est Thomas Rozek. Quand on a comme moi deux charmants enfants et un foyer de quatre personnes à co-alimenter, la question des courses, de ce qu'on met dans les placards, le frigo et donc dans les assiettes est tout sauf légère et anodine. C'est une guerre de tous les instants pour faire concilier plaisir des repas pris en famille, juste équilibre des nutriments et des produits de bonne qualité et l'inévitable et imprévisible attitude d'Eddie Marmot face à leur pitance, notamment quand une décide par exemple qu'elle ne veut plus manger d'aliments rouges. Me demandez pas pourquoi. Bref, au-delà de cet aspect tout à fait personnel, l'interrogation sur nos modes de consommation est communautaire. Partagée et elle se ressent sur toute la filière qui va des agriculteurs à nos estomacs, avec au milieu la grande distribution, les hypermarchés dont on nous répète depuis une dizaine d'années que le modèle jadis hégémonique était à bout de course, fini, menacé. Mais est-ce que c'est si vrai que ça ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Déjà posons les termes de la discussion, parce que derrière une expression aussi imprécise et sensationnaliste que « crise des hypermarchés », il y a forcément une réalité plus complexe. Donc j'ai passé un coup de fil à un spécialiste du sujet, Olivier Dauvert, expert de la grande consommation qu'il suit depuis une vingtaine d'années, et je lui ai demandé tout simplement, quand on parle de crise des hyper, on parle de quoi ?
On parle d'une période où les hypermarchés, même un peu les supermarchés, ont terminé leur âge d'or où chaque année, de manière quasi automatique, quasi mécanique, ils progressaient, ils voyaient leur chiffre d'affaires progresser de 5, parfois 10%. Et désormais, ils sont sur une espèce d'asymptote, de période stable, avec des chiffres d'affaires qui ne progressent plus, parfois même qui régressent, pour deux raisons principales. D'abord, le fait que sur toute la partie non alimentaire de leur rayon, ça veut dire le bazar, l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, l'électronique, ils ont vu apparaître un nouveau concurrent foudroyant qui s'appelle le e-commerce, évidemment Amazon en tête, mais il n'est pas le seul. Et donc mécaniquement, ça a vidé les rayons non alimentaires des hypermarchés et ça les a contraints à en rabattre un tout petit peu, j'allais dire. La deuxième raison, c'est que la consommation globale des Français, depuis la crise de 2008, ne progresse quasiment plus, ou en tous les cas, beaucoup moins vite qu'avant. Donc, les enseignes de la grande distribution qui étaient habituées à se développer de manière rapide, et en partie parce que le gâteau global de la consommation grossissait, eh bien, depuis 2008, ce gâteau, il ne grossit plus, et en plus, il se trouve qu'il y a plus de convives autour de la table, donc ça fait des parts plus petites pour chacun. Voilà, expliqué de manière peut-être un peu simple, mais c'est bien la réalité, la situation de la grande distribution aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on n'a pas un peu trop rapidement enterré la grande distribution ? Est-ce qu'on n'a pas un peu vite crié à sa mort, alors qu'en fait, elle est plus en train de se restructurer que de disparaître totalement ?
Alors, si certains ont pu imaginer que c'était la fin des hypermarchés, comme on le lit parfois, évidemment, ils se sont trompés. L'hypermarché demeure toujours le premier format commercial fréquenté par les Français. Ils y dépensent environ une centaine de milliards d'euros par an pour un format qui est mort. C'est quand même pas mal. Donc, l'hypermarché demeure toujours un format qui est très attractif pour les consommateurs. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'il ne progresse plus. Et c'est ça qui met la grande distribution en situation de difficulté, parce que dans ce métier, quand vous voyez vos ventes stagner, c'est votre rentabilité qui baisse, parce que vos coûts, vos charges, eux, continuent année après année à progresser. Donc, on a mélangé deux choses. On a mélangé les difficultés économiques en termes notamment de rentabilité, et puis le fait que les consommateurs continuent à y aller. Donc oui, ça demeure un format qui est attractif pour les consommateurs, mais non, ce n'est plus un format d'avenir pour la distribution. Ça peut paraître incompatible en apparence, mais ça ne l'est pas.
Justement, puisque vous prononcez le mot qui fâche, le mot avenir, comment est-ce que ce secteur, comment la grande distribution se projette vers l'avenir? C'est quoi les pistes qu'elle envisage pour sa transformation, justement, son entrée dans ces nouveaux modes de consommation peut-être un peu plus fragmentés?
La distribution, et notamment la grande distribution alimentaire, est confrontée aujourd'hui à deux grands défis. Le premier défi, c'est comment il gère ce qu'on pourrait appeler la décroissance régulière mais inéluctable de toutes leurs ventes non alimentaires. Il faut savoir qu'historiquement, un hypermarché, c'était presque moitié-moitié alimentaire et non alimentaire. Désormais, c'est moins de 20%. Et ça va continuer à baisser, cette part du non alimentaire. Donc, le premier défi de la grande distribution et des hypermarchés, c'est d'accompagner cette décroissance, ou en tous les cas, d'en limiter la portée au maximum. Et parmi les initiatives, celles que l'on voit poindre et qui se développeront inévitablement, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais la cornerisation. La cornerisation, ça veut dire que dans les hypermarchés, on va mettre des corners d'enseignes spécialisées à la place des rayons de l'hypermarché. Un exemple, parce qu'il existe déjà, il y a deux Carrefour en France, dans lesquels le rayon électronique de Carrefour, classique, a été vidé et remplacé par des rayons qui sont tenus et signés par Darty. Et donc, ce faisant, les consommateurs ont accès dans l'hypermarché à une enseigne qui est plus spécialisée, qui leur inspire plus confiance que Carrefour pour y acheter, par exemple, une cuisinière ou une machine à laver. Donc ça, c'est le premier défi des enseignes, c'est sur le non-alimentaire, de limiter au maximum le recul qui est de toute façon inéluctable. Le deuxième défi, lui, il porte sur l'alimentaire. Sur l'alimentaire aujourd'hui, les consommateurs ont la fâcheuse habitude, manie, en tous les cas pour les hypermarchés, de fragmenter leurs achats. C'est-à-dire non plus d'aller uniquement à l'hypermarché une fois par semaine, mais de continuer sans doute à y aller, mais en achetant plutôt moins et en allant compléter chez le primeur, si vous êtes sensible à la qualité des fruits et légumes, ou chez le boucher, si c'est la viande qui vous intéresse plus particulièrement, ou dans des boutiques de produits locaux, si c'est ce que vous recherchez. Et donc, ce comportement de fragmentation de la consommation, ça a comme conséquence d'émietter les dépenses des ménages entre différents types de magasins, alors qu'avant, vous les concentriez dans un seul type de magasin, en l'occurrence celui de la grande distribution. Et donc, le défi auquel ils font face, c'est d'apparaître elles aussi comme des spécialistes pour rassurer le consommateur. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, quand il y a des rénovations dans les magasins, c'est souvent pour transformer la zone produits frais en une espèce de grand marché avec des stands, le stand du poissonnier, du boucher, tout ça qui va être traité de manière à l'ancienne, j'allais dire, comme pour assurer sur le fait que dans ce magasin, il y a un vrai boucher, il y a un vrai poissonnier, il y a un vrai boulanger. Et donc d'aller chercher une forme d'artisanalisation, le mot n'est pas joli, mais de redevenir des artisans de l'alimentaire, chose qu'ils avaient peut-être un peu perdue.
Pour pousser encore plus loin notre réflexion, j'ai invité Pascale Hébel à venir en discuter. Pascale Hébel, elle est directrice du pôle consommation et entreprise du CREDOC, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Autant dire qu'elle maîtrise assez bien le sujet. Et je lui ai demandé pour commencer si le modèle des hypermarchés était encore adapté vu l'évolution de nos modes de vie.
Alors, ce qu'on observe, c'est que la société évolue, notamment parce que les tailles des foyers sont de plus en plus petites.
Ouais.
Donc, les gens vivent de plus en plus seuls. Hein. Même les jeunes s'installent seuls avant de se mettre en couple. Il y a moins d'enfants. Et puis, surtout, la société vieillit. Donc, ce qui n'est pas adapté à cette société-là, c'est en effet les grands hyper. C'est-à-dire que le fait d'être obligé de se déplacer loin, de prendre du temps pour faire les courses qui aujourd'hui sont de moins en moins vécues comme un plaisir, parce qu'on perdait du temps dans ces grands hyper, et d'être obligé de prendre sa voiture, ça n'avait d'intérêt que quand on avait des grandes familles. Et donc, en effet, la société va vers des plus jeunes qui se mettent moins en couple, qui feront moins d'enfants. Et donc, ça correspondait à une génération qui est la génération mai 68, qui est partie très tôt de chez ses parents, qui a eu plus d'enfants en moyenne que ce qu'en auront les jeunes, et qui, elle, a adoré ce modèle-là. Mais aujourd'hui, ils ont 70 ans. Donc, en effet, ça fait 10 ans que ces générations-là, cette génération qui est née avec ce modèle-là, ne va plus dans un hyper, puisqu'ils n'ont plus d'enfants à la maison, qu'ils ont, démographiquement, ils sont rentrés dans les centres-villes. Et donc, en effet, on a vu arriver d'autres offres adaptées à cette génération. Pourquoi tout se fait en fonction de cette génération? Tout simplement parce qu'ils sont 1 million de plus sur 10 années de naissance que la génération d'avant. Donc, c'est eux qui font tous les marchés de la consommation.
Oui.
Et donc forcément, ce qui est né avec cette génération qui est partie à la retraite, c'est le supermarché de centre-ville. Et on a eu en 2010 10 nouveaux concepts avec une offre qui a complètement changé. Et donc c'est quand même la fin des hyper, date d'il y a une dizaine d'années, et est né de nouvelles façons d'acheter. Donc à la fois pour ces personnes plus âgées qui sont plus que un ou deux, qui ont du temps pour faire leurs courses, donc ça suffisait des petites surfaces, mais aussi de nouveau des petits commerçants, des artisans commerçants qui vont répondre avec plus de qualitatif. Et c'est un peu pour ça qu'on a cette baisse des hyper, mais aussi l'arrivée de grands spécialistes pour quand même les familles qui existent. Et donc, par exemple, du fruit et légumes, grand frais, ça n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, qui correspond à un besoin qui est plus ciblé, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de tout acheter au même endroit. Mmh. Et on a eu en même temps une envie d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui du mieux consommé, qui se développe beaucoup là avec l'écologie.
Ça fait aussi partie des vrais changements, j'imagine, de donne dans, quand on étudie comme vous les habitudes des consommateurs. C'est-à-dire que maintenant, la part de sens même quasiment qu'on donne à sa consommation devient de plus en plus grande.
Tout à fait. Ce qu'on observe vraiment, c'est que malgré la reprise économique là, depuis 2014, c'est que malgré le fait qu'on ait un pouvoir d'achat qui a augmenté, là, notamment en 2019, puisqu'il y a eu des primes en début d'année, c'est qu'on consomme moins que ce qu'on pourrait, notamment en nombre d'objets, que ce soit sa façon de s'habiller, on dépense beaucoup moins sur des achats de vêtements neufs, sur des jouets, etc. Et par contre, on essaye de consommer mieux. Donc il y a une partie de la population, il faut faire attention, parce que c'est que la moitié des Français qui sont les plus aisés, les plus diplômés, qui choisissent de consommer moins, et ça va toucher l'hygiène beauté. Donc le mieux, c'est on veut plus des produits avec de la chimie de synthèse. Donc en fait, on revient à des produits de nos grands-mères qui se consomment en moindre quantité. Donc déjà, ça en fait moins en chiffre d'affaires. Et même chose sur l'alimentation, c'est-à-dire que on veut moins acheter des grands formats, on veut plus aller vers trop de promotions et repartir avec des paquets qu'on consommera pas. On veut moins gaspiller, moins gâcher, et donc on va préférer. Et vraiment, c'est ce qui se passe sur les catégories les plus aisées, les plus diplômées, c'est qu'elles vont préférer aller directement chez le producteur. Mmh. Donc on voit mûrir des nouveaux modèles qui sont très très parisien centrés, où on a des coopératives, où c'est des bénévoles qui vont alimenter devenir ceux qui vont être salariés, et puis les AMAP, etc. Et donc là, évidemment, c'est une offre qui pèse pas beaucoup en chiffre d'affaires, mais qui finalement échappe tous ces circuits, ces grands circuits de consommation. Et puis évidemment, il y a un autre phénomène qui est quand même le digital. C'est-à-dire que le e-commerce, alors en plus du drive classique, commence à se développer sur le beauté, sur la beauté, l'hygiène beauté, sur l'alimentation, sur des secteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas été touchés par ce phénomène-là parce que c'est trop pondé, enfin ça pèse trop, donc en termes de logistique c'était compliqué. Et là, ça se développe chez les plus jeunes, c'est-à-dire que les jeunes ménages qui ont les jeunes foyers qui ont des enfants, qui ont besoin de faire quand même des grosses courses, vont aller dans ces modèles-là où en effet on peut se faire livrer, on n'est pas obligé de monter toutes les bouteilles d'eau ou les couches avec des étages. Donc cette praticité que proposait l'hypermarché, elle est un peu remplacée quand même par le e-commerce pour les foyers qui ont des enfants, parce que l'hypermarché il était fait pour les familles avec enfants.
Ces pratiques, elles sont minoritaires pour l'instant, j'imagine, mais est-ce qu'elles sont en augmentation? Est-ce que c'est mesurable en tant que chercheur?
Vraiment, alors ça pèse très peu, ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire que je prends ma voiture et je vais directement chez
mon producteur de fruits et légumes.
Ou bien je vais dans une AMAP où on m'apporte des paniers, ça pèse à peu près 5% du chiffre d'affaires, mais c'est en croissance, la proportion de gens qui y vont. Aujourd'hui, on est à 24% de Français qui ont déjà été achetés directement à un producteur, et on était à 20% il y a 5-6 ans. Donc oui, ça progresse, mais c'est un peu comme le bio il y a 10 ans, ça pèse peu au global sur le marché. Et donc il y a plein de formes qui se développent, à la fois même dans les régions où il y a plutôt des zones rurales, et surtout dans les grandes villes où finalement ce sont ces urbains qui vont avoir besoin de se rapprocher de la nature et qui vont soit le faire par internet, soit se déplacer. Et donc oui, ça se développe beaucoup, parce qu'en plus il y a une volonté de soutenir les agriculteurs. Il y a eu une très grosse crise agricole il y a 5-6 ans, et finalement, il y a vraiment une envie d'être sur la justice sociale. Et donc, on est prêt à payer un peu plus cher, parce que ça coûte plus cher, même si ça ne paraît pas évident de comprendre pourquoi c'est plus cher d'acheter en direct que d'acheter dans un hyper.
Sans les intermédiaires et tout ça, oui.
Oui, alors c'est juste des effets de volume. Si vous achetez directement, ça coûte plus cher que d'aller dans un grand hyper. Donc, on est prêt à payer plus cher quand il y a une juste rétribution, c'est-à-dire qu'on est sûr que le producteur arrive à vivre et qu'il n'a pas un salaire faible. Donc on a alors à la fois sur ça, mais aussi parce que toutes les marques qui sont développées, où je cite une marque, et c'est qui le patron, mais il y a d'autres exemples, là ça se développe très fortement, on n'imaginait pas que ça prendrait autant d'ampleur. On est prêt à payer plus cher si on est sûr que le producteur de lait aura bien 1 euro au litre et qu'il arrivera à vivre de ce qu'il vend.
Finalement, est-ce qu'on ne va pas assister à un éclatement du système du commerce, tout simplement, qui va se retrouver en une galaxie de petites niches, chacune adaptée au mode de vie des uns et des autres, plutôt qu'un modèle, on va dire, global, qui était celui de l'hypermarché?
Oui, tout à fait. Vous avez bien résumé les choses. On avait peut-être une clientèle, d'ailleurs, qui était plutôt assez monolithique, qui allait dans ces hyper. Et ce qu'on observe, c'est que la société se fragmente de plus en plus, et même sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'avant, on avait peu de différenciation sociale sur le contenu des assiettes. Et là, on voit bien qu'il y a quand même ce mouvement écologique qui pousse à une fragmentation des clientèles. Une moitié de la population veut aller vers des modes très, très écologiques. On n'a jamais vu la préoccupation environnementale aussi forte que là en 2019. Ça a pris plus 14 points en 2 ans. Et donc, toute cette partie de la population qui veut défendre l'environnement veut une offre différente. Donc, une offre qui soit plus naturelle, une offre qui soit plus proche d'eux. Et donc, on va avoir une segmentation des circuits de distribution comme une segmentation des produits aussi, c'est-à-dire que d'avoir des produits qui arrivent dans les magasins qui sont soit à défendre un juste prix, soit à être sans, zéro pesticides, etc. On n'a jamais vu autant sur tous les secteurs de segmentation de produits aussi. Et donc oui, sur la façon de consommer, on est passé de 80% des volumes qui étaient dans les hyper. Aujourd'hui, on est à 65. Ça ne fait que baisser depuis une quinzaine d'années. Et donc, en effet, le 30% qui se vend ailleurs que dans les hyper et les super, en fait, c'est plein de petits modèles. Donc il y a quand même, par exemple, les artisans commerçants qui n'avaient fait que baisser, qui remontent. Les marchés forains. Alors les marchés forains, c'est remonté pendant la crise 2008-2009. Et bon, et là, ça rebaisse un peu, mais c'est un peu ces modèles-là. C'est-à-dire qu'on veut rencontrer le commerçant qui va vous rassurer sur ce que vous consommez pour l'alimentation, ou bien on veut aller vers des nouveaux magasins. Dans la beauté, on a ça, où on a du vrac. C'est-à-dire qu'on va vers des magasins où il n'y a plus de plastique du tout. Donc, on veut pouvoir complètement valider un petit peu toutes nos convictions pour une partie de la population sur « je fais un petit geste pour la planète ».
Cette fragmentation, ça ne veut pas dire pour autant que ce sera la mort des grands groupes agro-industriels, notamment des grands groupes d'hypermarchés, parce qu'eux aussi s'adaptent et eux aussi développent maintenant des enseignes plus petites. On trouve du vrac, vous parliez du vrac. Il y a plusieurs enseignes comme ça qui développent des enseignes labellisées bio et qui tente quelque part de rattraper ce mouvement.
Oui, tout à fait. Alors que ce soit du côté de l'industrie ou de la grande distribution, ils vont racheter les petites start-up qui ont réussi sur ces nouvelles niches. Et bon, ils ont un petit peu attendu sur le bio, hein. Ça a pris du temps avant qu'à la fois les grands industriels rachètent des marques bio, comme Danone l'a fait sur le bio, ou pour que un grand Carrefour ou un Auchan se mette à faire des magasins spécialisés bio. Ils ont tardé, mais c'est ce qui a un petit peu aussi fait de la croissance sur ces marchés-là. Mais ils sont quand même, les grands groupes sont quand même mal, hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ces grands groupes avoir autant de difficultés financières, tout simplement parce qu'ils sont très très grands. Donc avant de bouger, et les changements sont beaucoup plus rapides qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu bouger aussi vite les façons de consommer. C'est-à-dire que ce n'est pas essentiellement le digital, c'est vraiment l'écologie. C'est-à-dire que ce mouvement qui, évidemment, touche le bien-être animal, donc ce qui se passe, par exemple, sur les œufs, vous pouvez plus acheter aucun œuf, hein, les œufs à manger, qui viennent de poules en cage. Ça n'existe plus. Oui. Il y a 5 ans, il n'y avait que ça sur le marché.
Oui.
Donc les changements sont beaucoup plus rapides et les grands groupes ont beaucoup plus de mal à le faire eux-mêmes. Donc soit ils vont racheter un petit producteur ou un petit distributeur qui s'est mis sur cette niche-là, ils ont du mal à suivre le mouvement, et les plus agiles sont quand même les petits, c'est-à-dire que en tous les cas dans l'industrie, les grosses PME, elles s'adaptent plus vite que les très grosses entreprises.
Une crise, donc, ce serait un changement d'échelle qu'on serait en train d'assister. Bon, par contre, pour ce qui est de comment convaincre une enfant de 6 ans de manger des tomates ou des poivrons, je suis toujours en quête de solutions. Merci à Olivier Dauvert et Pascal Hébel pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.